Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. C'est vendredi, c'est podcasty. Et oui, les amis, c'est le jour où Popopop se métamorphose en Popopodcast, comme une citrouille se transforme, elle, en carrosse pour partir en week-end. Car oui, c'est l'émission qui annonce le week-end, pendant lequel vous allez avoir le temps et le loisir d'écouter des podcasts en conduisant, en courant, en escaladant, en pédalant, ou je ne sais quelle autre absurde activité sportive à laquelle vous allez vous adonner. Tandis que moi, je serai plongé dans les livres, mes livres adorés que je dévore avec une gourmandise de plus en plus grande au fur et à mesure que l'arthrite me gagne. Ah, les livres, envahissante passion dont je ne me lasserai jamais. Des livres à lire, à sentir, à regarder, à feuilleter fébrilement ou en prenant tout son temps. Des livres dont on parle ou, comme dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, avec le podcast Book Club dont on écoute parler. Agathe Le Taillandier, qui anime depuis 3 ans le fameux Book Club, est notre invitée et Popopopodcast, épisode 28, c'est parti.
France Inter. Popopop.
Bonjour Agathe Le Taillandier.
Bonjour.
Et bienvenue dans ce Pop-up Podcast. Avant toute chose, est-ce que vous arrivez à prononcer correctement le nom de cette émission?
Je pensais que vous alliez oublier la question.
Pas du tout.
Pop-up Podcast.
Pas mal. Je crois qu'il y avait
presque,
un de trop. Non, il y en avait un de trop.
Ouais.
Alors, allez, encore un essai.
Popopodcast.
Non, là, il manque un. Là, il manque.
Popopodcast.
Voilà, c'est le bon. Bravo, Agathe. Merci.
Un peu trop haut, mais c'est ça, en gros.
Et à bientôt. Au revoir.
Bon, on a fait le tour de la question.
Nous pouvons donc continuer. Agathe, aujourd'hui, nous allons donc parler de votre podcast, le Book Club. C'est un podcast Louis Média qui t'a retrouvé sur toutes les plateformes. C'est donc un club pour parler de book.
Exactement.
Si j'ai bien compris.
Ouais, hein, c'est ça.
Pourquoi un book
une
club,
émission pour parler de livres, du coup, en français. C'est pas mal aussi.
Pourquoi ce titre anglais, d'ailleurs?
Ah, c'est une bonne question.
Parce que c'est une référence. Alors... Enfin, il y a des book clubs un peu.
Oui,
un peu,
c'est ça. En fait, au tout départ, l'émission, il y avait aussi l'idée de faire des événements physiques, donc de se réunir pour parler de livres.
Ouais.
Mais ça, c'était avant quelque chose qu'on a appelé le confinement. Et donc, depuis, on a jamais repris. Mais c'est vrai que c'était vraiment l'idée d'allier l'émission, le son et les interviews autour des livres et des rendez-vous dans des lieux un peu atypiques, étonnants pour se retrouver pour parler de livres entre lecteurs et lectrices.
Alors, le podcast, vous en dites, Agathe, que c'est un endroit parfait pour parler de littérature. Pourquoi est-ce qu'il est plus parfait que les autres, cet endroit-là?
Je pense que ce qui attire aujourd'hui les auditeurs et les auditrices, c'est beaucoup, pour écouter des podcasts, c'est vraiment l'idée que se déploient des récits, des histoires, qu'on rencontre des personnages dans des formats justement qui peuvent être plus longs qu'à la radio, par exemple. Mmh. Et qu'est-ce qui est, enfin, et dans les livres, c'est ça qu'on vient chercher. On vient chercher des histoires, des aventures, des rencontres avec des personnages, avec des histoires qui vont nous bouleverser, qui vont être des miroirs de nous-mêmes. Mmh. Et donc l'idée de ce podcast, c'est vraiment de parler des livres, mais de rentrer dans les livres, pas d'en parler de manière, intello, ou distancié, ou théorique, ou académique, mais vraiment de rentrer dans les histoires. Mmh. Donc pour moi, c'était parfait de le faire avec le son et avec le podcast.
À quand elle remonte votre passion pour la littérature?
Vraiment depuis que je suis petite, quoi.
Toute petite, vous.
Ouais, vraiment, j'étais une lectrice de fou. J'allais dans les bibliothèques, dans les librairies, énormément. J'adorais l'objet livre, en fait.
Ouais.
Notamment les collections, et si c'était par la fin que tout commençait. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, voilà, vous prenez le livre à l'envers, et puis aussi, pour la blague aussi, les bandes dessinées de religieuses. Parce que j'ai une éducation religieuse. Mmh. Où j'allais au caté.
Les vies édifiantes,
Saint François d'Assise en BD, tout ça. Ouais, c'est un peu les premiers personnages que j'ai rencontrés. Depuis, je suis partie vraiment très très loin de ça, mais voilà, c'est un peu des premiers émois de lecture.
Alors, il y a donc ce podcast, le Book Club, et vous avez poussé le curseur jusqu'à faire un livre de ce podcast. C'est-à-dire à quel point vous aimez les livres. Si je comprends bien, c'est un podcast qui parle de livres que vous avez donc adapté en livre.
Ouais, c'est ça, exactement. On s'est dit, ça se fait beaucoup en ce moment, les maisons d'édition s'intéressent au format podcast, mais on s'est dit, en fait, on passe notre temps depuis 2 ans à parler de livres, et on va transformer ça en texte et pour que ça fasse une sorte de petite anthologie. Donc c'est devenu une bibliothèque féministe, et j'ai demandé à 18 femmes d'écrire un texte sur le livre fondateur dans leur rapport au féminisme. Donc c'est une série de textes, mais très organisée, très structurée, dans lequel je fais des liens et je mets tous ces textes un peu en conversation, en fait.
Absolument, ça s'appelle une bibliothèque féministe et c'est publié chez l'Iconoclaste. Nous allons parler de tout ça pendant l'heure de ce book club avec Agathe Le Taillandier. Et juste après, un peu de musique qui parle de livres, c'est Every Day I Write the Book, évidemment, et Costello et les Attractions.
Yeah.
Elvis Costello and the Attractions, Everyday I Write the Book. Et aujourd'hui, on écoute des books avec Agathe Le Taillandier, notre invitée venue parler du Book Club, son podcast. Agathe, généralement, c'est le moment de l'émission où Charline Roux me rejoint. Mais aujourd'hui, elle est absente, ma petite Charline. Cependant, elle nous a laissé un message sous forme de chronique, car c'est une bonne élève. Chronique que nous écouterons un peu plus tard. Alors, généralement, je dis donc, Charline, vous avez écouté le podcast de notre invitée et, eh ben, elle enchaîne pour présenter le podcast en question. Mais comme elle n'est pas là, je vais donc le faire pour elle. Le Book Club, c'est un podcast qui parle donc de book, mais pas que. Ambiance.
Il faudra attendre le 19e siècle pour que se développe réellement la littérature ukrainienne, avec notamment un personnage majeur, un poète.
C'est le véritable fondateur, en quelque sorte, de la littérature ukrainienne, est Taras Shevchenko, le poète naissaire, racheté du servage à l'âge de 24 ans, et qui écrit donc son premier recueil, qui secoue véritablement l'Ukraine, qui la sort, en quelque sorte, de cette léthargie, parce que on commençait déjà à se provincialiser et peut-être à chérir le souvenir historique, le souvenir des Cosaques, mais en quelque sorte accepter cette situation. Et c'est Shevchenko qui a donné cette voie de la révolte, qui, un véritable slavophile, avait prôné l'unité des peuples slaves dans l'égalité. C'est-à-dire qu'il parlait de la grande famille slave, avec les Polonais, les Tchèques, etc. Mais tous les peuples slaves seraient libérés des empires qui les oppriment et pourraient vivre dans une grande famille à égalité.
Alors ça, Agathe Le Taillandier, c'est extrait du Book Club spécial littérature ukrainienne que vous avez diffusé le 22 mars dernier avec la traductrice et professeure Irina Mitrichine. Je prononce bien ?
Ouais, tout à fait.
Oh, pour une fois. Dans cet épisode, vous parlez de l'histoire, elle parle de l'histoire de son pays à travers la littérature et la langue. Et on y découvre que cette littérature est toute jeune, en fait, qu'elle remonte au 19e siècle et qu'elle est née à travers la poésie et un poète romantique qui avait pour nom donc Shevchenko et qui rêvait d'une unité panslave.
Ouais, exactement. C'est moi, ce nom, du coup, je l'ai découvert dans l'actualité ces dernières semaines.
Ah, vous rassurez.
Oui. Enfin, oui, je l'ai découvert vraiment à ce moment-là. En fait, il est beaucoup revenu parce que c'est vraiment une figure de la révolte chez les Ukrainiens, ouais. Chez les Ukrainiennes. C'est vraiment un personnage très fédérateur.
C'est un peu leur Hugo.
Et exactement, ouais. Voilà. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, il correspondait vraiment à ce mouvement romantique que nous on connaît très bien en France, à travers notamment effectivement Victor Hugo, de ces figures d'écrivains, de poètes qui pensent la littérature et qui pensent l'écriture à travers l'histoire, à travers un souffle aussi, le souffle du peuple, et qui met en scène et qui raconte le peuple. Donc c'est un personnage qui a l'air d'être actuellement, en ce moment, une figure qui circule beaucoup sur les réseaux, dont on cite des extraits.
C'est une brûlante actualité, oui.
Complètement, ouais, exactement, ouais. Voilà. Et donc, je trouve ça beau aussi de voir comment un écrivain reprend aussi une forme d'actualité brûlante et devient un symbole et peut-être aussi un soutien pour le peuple ukrainien en ce moment.
Et alors surtout, et peut-être plus encore que nulle part ailleurs, en ce moment, la langue est politique, hautement politique, et elle définit une identité. Elle va même jusqu'à fonder l'existence d'une nation.
Ouais, c'est exactement ce que donc Irina Dmitrichine a développé dans cet épisode. Cette idée, voilà, que la langue est vraiment un lieu de pouvoir et un lieu de conquête pour les Ukrainiens, parce qu'elle a été en permanence à travers l'histoire, à travers les différents moments de domination, donc soit l'Empire russe au 19e et puis plus récemment avec l'URSS. Comment, en fait, à chaque fois, il y avait des moments où l'ukrainien reprenait de la place, donc redevenait une langue qu'on apprenait à l'école, avec laquelle on pouvait travailler dans la fonction publique, une langue qu'on parlait dans l'espace public. Et puis à chaque fois qu'il y avait besoin de resserrer la vis et de remettre une domination russe, elle devenait soit en tout cas on l'interdisait à l'école, on l'interdisait à l'université, les médias ne pouvaient plus écrire en ukrainien, les pièces de théâtre n'étaient plus jouées dans cette langue, et ça devenait une langue domestique, donc une langue de la maison. Et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un pays qui est peut-être russophone, en fait. On parle énormément le russe. Ouais. Et où parfois, même, il y a un petit côté un peu provincial à parler l'ukrainien. Enfin, elle disait, ce côté un peu provincial. Donc, comment la langue est un lieu de pouvoir, un lieu d'asservissement, ou au contraire, un lieu de libération et d'émancipation.
Bien sûr.
Et du coup, évidemment, la littérature devient un lieu extrêmement fort pour tout ça, pour tous ces enjeux-là, quoi.
Vous parlez avec elle, avec Irina Dmitrichine, je l'ai encore bien prononcé, bravo.
Le D qui est dur, Dmitrichine, c'est les deux consonnes.
Dmitrichine, oui. Dmitrichine. Vous parlez avec elle des limites de la fiction. Comment se laisser embarquer, par exemple, par la fiction quand la réalité frappe aussi lourdement dans un pays en guerre, par exemple ?
Ouais. Je trouvais ça important, en fait, parce qu'à chaque fois, je vais quand même vers des lecteurs. Mes invités sont souvent des lecteurs ou des lectrices. Mmh. Donc, il y a un rapport assez fluide, assez simple à la lecture. Ouais. Mais c'est important de rappeler aussi qu'il y a des moments dans la vie, en fait, soit intimement, soit plus collectivement et politiquement, comme pour l'Ukraine en ce moment, on est moins disposé à ça. Qu'en fait, la lecture, c'est aussi prendre du temps, c'est aussi avoir l'esprit quand même un peu vacant, un peu disponible pour voilà, se projeter dans une fiction, dans une histoire, dans une aventure. Et que oui, en fait, quand on est accroché à l'actualité, aux réseaux sociaux, voilà, aux médias, la lecture a plus aucune place, en fait. Mmh. Et je trouve que c'est important de le dire aussi.
Et pour vous qui connaissez bien la littérature, c'est agrégé, hein, littérature.
Oui, tout à fait.
Les informations sont bonnes. La fiction prend sa revanche à un moment ou à un autre. C'est quoi ? C'est quand la paix revient.
Après, la paix, il faut la trouver. Enfin,
c'est difficile d'écrire, de lire quand on a les bombes qui pleuvent de partout.
Ouais, j'imagine. Après, j'ai pas cette expérience intime, donc je veux pas parler à la place des autres, mais en tout cas, je pense qu'il faut une paix intérieure, quoi. Mm-hmm. Après, pour produire, c'est différent. En tant que lecteur, il y a cette paix qu'il faut, je pense, avoir et aussi s'octroyer la liberté de prendre du temps, en fait, de prendre du temps libre, du temps vide pour lire. Après, produire, c'est autre chose. Voilà, la littérature engagée, là, moi aussi, les auteurs ukrainiens dont elle m'a parlé, qu'elle m'a fait découvrir, ils sont en ce moment à Kiev, en train d'écrire, en train de produire, en train de réfléchir. Ils font des journaux de bord. Donc voilà, ça peut être aussi un endroit évidemment de combat, de réflexion, de prise de distance et de resserrement de sa pensée, en fait. Mm-hmm. Je pense l'écriture. Donc c'est deux choses différentes, lecteur et écrivain.
Oui, mais la fiction ne protège pas des balles.
Non, bien sûr malheureusement. Que non, on le saurait.
En quoi la littérature ouvre-t-elle des mondes et bouleverse-t-elle des parcours de vie ? Voilà ce que vous vouliez savoir au départ du podcast. 75 émissions plus tard, qu'est-ce que vous en dites ?
Alors, le format a un petit peu évolué, c'est important de le dire, parce qu'au départ, le projet, c'était d'aller voir des femmes, des femmes artistes, intellectuelles, militantes, d'aller les rencontrer dans leur bibliothèque et de parler du livre qui avait été fondateur dans leur parcours et qui les avait peut-être autorisés à un moment donné, fait bifurquer. Donc ça, c'était le projet. Et puis là, autour de l'actualité, on avait envie de faire un book club présidentiel, donc en soulevant des problématiques de société, donc de sortir des bibliothèques, de sortir de l'espace domestique pour aller embrasser des questions plus collectives peut-être, mais toujours à travers la littérature et la fiction. Donc le projet s'est un petit peu déplacé, avec quand même cette idée, que les livres nous aident à penser, que les livres peuvent être des moments déclencheurs, en fait, des moments de d'autorisation. Mais c'est pas du développement personnel, je veux dire. Enfin, on va pas aller chercher un livre et chercher une réponse. Je pense que les livres, ils viennent à nous, ils arrivent comme des coups d'éclat, comme des moments, je sais pas, de vibration, en fait, et parfois là où on s'attendait pas. C'est pour ça que moi, je dis souvent que les livres viennent à nous. Je sais pas, par exemple, moi, je me rends compte qu'en ce moment, je lis que des histoires autour un peu des désillusions de la mi-trentaine, on va dire. Ouais. Je me retrouve que dans des bouquins comme ça. C'est hyper bizarre. Et en fait, non, c'est pas bizarre du tout, puisqu'effectivement, j'ai à peu près cet âge-là et je me pose plein de questions. Donc, en fait, c'est drôle de voir aussi, comment les histoires viennent à nous, nous autorisent à penser des choses. C'est tout ça. Enfin, il n'y a pas de réponse toute faite, en fait. Mais c'est comment, en tout cas, la lecture nous met en mouvement et nous permet d'entrevoir d'autres vies que les nôtres. Et donc, du coup, de s'interroger sur notre intimité, sur notre place dans le monde aussi, tout simplement.
Mais cette question que vous vous posiez au début du book club, il y a donc 75 épisodes maintenant, je vous la retourne exactement, c'est-à-dire quelle est l'œuvre littéraire qui vous a ouvert des mondes et bouleversé votre parcours de vie à vous ? Ça fait bizarre de se retrouver interviewé à son tour.
Bon, on l'a déjà posé, effectivement, avec notamment autour du livre, une bibliothèque féministe, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. C'est hyper dur. Je me rends compte que c'est hyper dur parce que déjà il y a aussi des âges. C'est des choses qui ont pu complètement me bouleverser à 8 ans, sont pas les mêmes qu'à 15 et puis qu'aujourd'hui.
Il y a quand même des livres fondateurs. Il y a des livres qui d'un seul coup ouvrent les chakras.
Complètement. Moi, je parlerais de La cloche de détresse de Sylvia Plath, qui est une autrice que j'aime énormément. Et qui parle beaucoup de sa difficulté à écrire, de sa difficulté à assumer l'écriture et de son rapport aussi à la maternité, de son rapport à son couple. En gros, elle aborde ces questions-là avec beaucoup d'humour, en fait, beaucoup de distance et en même temps avec une certaine gravité, une certaine tragédie. Et vraiment, pour moi, ce livre, il m'a ouvert une manière de parler de soi, drôle et en même temps, enfin, un peu cynique et en même temps extrêmement intime. Ouais. J'adore cet endroit-là, en fait, je le trouve hyper juste.
Si moi je vous dis que le livre qui a tout débloqué pour moi, c'est L'île au trésor de Stevenson, vous en concluez quoi ?
C'est super, ça vous a ouvert des portes, des mondes.
Que je cherche toujours mon trésor.
Et c'est un, ouais, bah, c'est la oui. quête, c'est toute la vie. Mais c'est un livre qu'on étudie encore à l'école d'ailleurs.
Et que j'ai très très peur des unijambistes. Bon, le Book Club, c'est un podcast hebdomadaire à retrouver sur toutes les plateformes et sur louismedia.com. Agathe Le Taillandier, faisons une petite pause. C'est l'heure du podcast. C'est la chronique de Charline Roux sur les podcasts et la pop culture. Charline, je me tourne vers vous. Ah oui, c'est vrai, non, elle n'est pas là. Mais elle a enregistré sa chronique. Allez, je mets la cassette.
Le podcast.
Le podcast. Elle s'appelle Kinuyo Tanaka, Madeline Anderson, Safi Fai, Leila Kilani, Kelly Richard, Jane Campion ou encore Thelma Ritter. Elles sont réalisatrices, scénaristes, directrices photo, productrices, script, monteuses. Elles ont toutes traversé l'histoire du cinéma. Et pourtant, un podcast remet ces femmes dans la lumière. Son titre, c'est Silence. Elle tourne, c'est raconté par Esther Bréjon qui ici s'intéresse à Suzanne Sontag, générique.
Le cinéma féminin, ça existe de plus en plus. Peu à peu, on voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes qui se sont dit « Mais le son, ça m'intéresse. Il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie. Ça veut dire qu'il faudra faire face dans très peu de temps à un phénomène complètement naturel. Il y aura peut-être autant de femmes cinéastes que d'hommes cinéastes et qui va s'amplifier. »
Go ahead and stare. I'm not ashamed.
On connaît Suzanne Sontag, l'intellectuelle, romancière et essayiste, celle qui a théorisé le concept de camp, celle dont l'ouvrage intitulé « Sur la photographie » dénonçait les dangers liés à la profusion d'images, celle qui s'est engagée politiquement contre la guerre au Vietnam, contre la guerre en Irak, contre l'impérialisme américain, celle qui se disait féministe militante mais pas militante féministe. On sait moins que cette femme touche-à-tout a aussi réalisé 5 films entre 1969 et 1984, témoignant de sa curiosité sans bornes et de l'éclectisme de son talent. Avec 3 fictions, un documentaire et un essai pour la télévision, Suzanne Sontag parle de cannibalisme psychologique, du conflit entre Israël et ses voisins, de danse, de la mélancolie de villes italiennes, du désastre qui nous guette.
Et Silence, elle tourne, c'est un podcast revu et corrigé, coproduit par le mouvement UP.
Et il est aussi question de biodiversité, de climat et d'environnement dans les podcasts.
Et notamment dans l'envers ERT du décor, un programme qui répond à des questions telles que bière ou vin, c'est quoi le pire pour la planète? Pourquoi interdire le Black Friday ne servirait-il à rien? Comment vivre la COP26 sans déprimer? Les fournisseurs d'électricité font-ils du greenwashing? C'est un podcast environnement du service science du HuffPost qui se demande aussi, faut-il choisir une trottinette ou un vélo électrique pour être écolo? Pour y répondre, l'équipe s'appuie sur les travaux d'Anne de Bortoli, chercheuse et référence de la micromobilité en France.
Anne de Bortoli, elle a carrément fait un classement du transport le plus vertueux au transport le plus polluant.
Ah bah voilà, ça c'est super intéressant, c'est ce qu'il me fallait justement pour mon guide d'achat, ça donne quoi alors ?
Alors bon, déjà une évidence, marcher ou se déplacer avec son bon vieux vélo, c'est ce qu'il y a de plus écologique.
Ouais ouais, mais moi j'en ai marre d'arriver essoufflé, donc comment je fais ?
Mec, il en a marre d'utiliser ses pieds quoi.
Voilà.
Bah justement, après la marche et le vélo, les transports les moins polluants sont, attention, écoutez bien, dans l'ordre, 1. Le métro, 2. Le RER, 3. Le vélo électrique, 4. Le tramway, 5. Le scooter électrique et 6. La trottinette électrique.
Et oui, jetez-moi la première pierre. Dans la suite du classement, on trouve le bus diesel, les deux roues à essence et la voiture. Une fois qu'on a en tête ce constat, on fait quoi? Eh bien, on écoute la suite de l'envers du décor sur le site du HuffPost.
La bande dessinée, c'est le titre d'un podcast, mais consacré à...
Ah, je vous laisse deviner. Un podcast dans lequel des autrices et auteurs répondent aux questions de Thomas Baumgartner, qui raconte drôlement bien la BD.
Bonjour à vous, la bande dessinée de la semaine c'est En chair et en fer de Kilofer, paru chez Casterman. Un beau livre, format tout en largeur, à l'italienne comme on dit, et en noir et blanc sans parole, qui met en présence l'auteur, Kilofer lui-même, et deux robots qui vont se succéder dans sa vie. Une auto-science-fiction où l'on constate que Kilofer ne peut pas se passer des bons soins de son robot domestique. Et quand le premier ne marche plus, c'est la catastrophe, il était son ami, son camarade. L'autre arrive alors, prend soin de lui plus encore, au point de devenir plutôt une sorte de père fouettard à domicile. À l'origine de cette histoire d'anticipation quotidienne, c'est une rencontre avec le philosophe Dominique Lestel, dont Kilofer avait dans un premier temps illustré le livre « Les machines insurrectionnelles ». En chair et en fer est donc un écho philosophique, écho muet sur ce qu'il advient de notre mélange aujourd'hui avec les machines. Écho qui a pris forme très librement sous le crayon de Kilofer et sans préméditation.
Ça, c'est pour le verbe de l'intervieweur. Voici maintenant celui de l'interviewé.
C'est la première fois que je fais un titre comme ça, un jeu de mots sur mon nom. Ça me pendait au nez depuis toujours, hein, quand on s'appelle Kilofer. C'est mon vrai nom, d'ailleurs. Et ça me pendait au nez. Et puis, c'est presque un miroir aussi. Moi, j'ai plus de miroir dans ma salle de bain. Je me rase en regardant mon nez.
C'est ça, c'est une salle de bain, oui.
La bande dessinée, c'est un podcast Wave Audio. C'est réalisé par Charlène Nouilloux. C'est dispo sur toutes les applis.
Merci, Charline. Ah bah oui, je suis bête, elle peut pas me répondre. C'était une chronique enregistrée. Bon, Agathe, je me retourne vers vous. Voilà, Agathe, on continue à parler de votre book club juste après Oh My God, c'est un morceau signé Adèle.
Inter. Antoine Decaune. Pop, pop, pop.
À partir du 9 juillet, dans le Book Club, des femmes comme Delphine de Vigan, Françoise Nyssen ou Digli nous accueillent dans leur bibliothèque. Un mardi sur deux, des écrivaines, artistes, intellectuelles, des lectrices voraces nous montrent leurs étagères et nous parlent de trois livres qui comptent pour elles et qu'elles vous recommandent.
Alors là, ce qu'on vient d'écouter, c'est en fait les 75 premières émissions dont on parlait, hein, avant le début janvier, où maintenant vous êtes tourné vers des émissions plus exclusivement féminines.
Exactement.
Voilà.
Moi aussi, tout à fait.
Donc le book club Nouvelle Génération. À quel moment, Agathe, est-ce que le monde du podcast a percuté votre vie? Puisque vous étiez enseignante.
Tout à fait, ouais, prof de lettres.
Prof de lettres.
Et j'ai aussi travaillé à Radio France pas mal à une époque. Voilà, ouais. Exactement. Je pense que le podcast, à un moment, quand on a un peu, voilà, on s'est un peu frayé un chemin à Radio France, qu'on a fait du documentaire, qu'on a essayé différentes formes, à un moment donné, il s'impose, il remplace pas forcément, mais c'est voilà, c'est vrai que c'est un moyen d'expression.
En fait,
il y a une souplesse, voilà. Ouais. Il y a une souplesse dans la fabrication, dans la manière, voilà, à la fois de monter, d'écrire, d'interviewer, d'être aussi à tous les moments, à toutes les étapes de production. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment possible avec le podcast.
Ouais.
Et puis, de pas avoir de contraintes de temps. Un épisode, là, par exemple, dans la spéciale présidentielle, peut faire 25 minutes comme 40. Nous, on est vraiment là au service du contenu. Mmh. Et voilà, cette liberté-là, elle est vraiment géniale.
Mmh.
Et concrètement, j'ai commencé en fait aussi le podcast quand Charlotte Pudlowski, donc la cofondatrice de Louis Media,
ouais,
a lancé Transfert, qui était un des premiers podcasts narratifs vraiment d'histoire à la première personne. Mmh. Et voilà, elle m'a aussi embarquée là-dedans. Et donc, j'ai commencé cette aventure avec Transfert. Et puis ensuite, la collaboration avec Louis s'est approfondie.
La volonté initiale, comme on l'écoutait il y a encore quelques instants, c'était de ne faire intervenir que des femmes, hein, des artistes, des auteurs, des scientifiques, des militantes ou encore des politiques. Aujourd'hui, c'est donc un peu ouvert, puisque le dernier invité en date était Mathieu Sapin. Un sapin, c'est masculin.
Tout à fait, exactement.
Monsieur Sapin, et là, la différence, c'est que vous vous déplacez, donc vous allez voir vos invités chez eux.
Ouais. Exactement, ça c'est aussi très important et ça fait partie aussi de la souplesse, je trouve, de l'interview avec ce podcast, c'est que je vais juste avec mon enregistreur ou avec un ingénieur ou une ingénieure du son, mais je veux dire c'est très léger et on va chez des gens. Moi j'aime bien aller là où ils travaillent,
mm-hmm,
ou là dans un endroit qui les raconte en fait. Donc Mathieu Sapin par exemple, on est allé dans son atelier, donc qui est dessinateur de bande dessinée, qui suit notamment Macron là pendant cette période électorale, et voilà, c'est super de le voir au milieu de tous ces objets, de ces bouquins, c'est un peu le bazar. Donc voilà, c'est vraiment son lieu de création.
Mmh.
J'ai aussi rencontré une militante que j'aime beaucoup qui s'appelle Fatima Wassak, qui est le deuxième épisode de la série spéciale. Et là, je suis allée dans un endroit qu'elle a créé à Bagnolet, dans le quartier de la Noue, au milieu de ce quartier-là. Ça s'appelle Vert Dragon, c'est ce qu'elle appelle la maison de l'écologie populaire. Et c'est vraiment son endroit de militance.
Mmh.
Donc voilà, c'est super aussi d'aller chez les gens parce ils ont un naturel, ils se sentent à la maison. Mmh. Donc ça crée autre chose dans l'interview aussi.
Comment est-ce que vous choisissez votre casting?
Vraiment à l'intuition, ça peut partir du sujet. Alors là, je parle vraiment des 8 épisodes qu'on fabrique dans cette période électorale. Ça peut partir du sujet. Par exemple, j'avais envie de faire un truc sur l'identité nationale. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Pourquoi ça revient à chaque période présidentielle? Pourquoi ce mot me fait froid dans le dos? J'avais envie de l'interroger. Donc au début, j'ai travaillé un peu sur cette notion, puis je suis allée chercher mon invité à partir de ça. Donc Fatima Wassak en l'occurrence. Ou parfois c'est un invité qui s'impose. Mathieu Sapin par exemple, c'est cadeau. Voilà, il travaille sur les coulisses du pouvoir, sur l'Élysée. Il a plein de petites anecdotes rigolotes à raconter. C'était voilà, c'est pour moi c'est plutôt l'invité là qui s'est imposé. Donc c'est pareil, il y a une liberté aussi dans l'édition quoi.
Oui. Est-ce que la formule initiale, en fait, ce qui a peut-être donné corps à ce projet, à savoir dis-moi ce que tu lis et je te dirai qui tu es, ça marche toujours? Est-ce que finalement on n'en apprend pas plus en faisant parler les gens de leur goût plutôt que d'eux-mêmes?
Ah, c'était lié en permanence parce que parfois les livres c'était un filtre pour les faire parler d'eux. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on commençait à parler du livre et puis en fait à partir de ça on entrait dans l'intimité de la personne parce qu'elle allait nous raconter quelque chose
c'est une porte d'entrée fantastique.
Ah, c'est une porte d'entrée, ouais, complètement. C'est vraiment ça. Oui, vous avez raison. Du coup, c'est ce que c'était exactement votre question.
Exactement
en fait.
Ma question.
Bon, j'ai foncé, un peut-être baissé, mais
on y a répondu tous les deux.
Ouais, non, mais c'est complètement ça. C'est un prétexte en fait pour faire le portrait de quelqu'un, pour parler de sujets aussi plus collectifs, plus politiques. C'est génial en fait, c'est vraiment, c'est prendre les histoires, la fiction comme un lieu pour parler de la vie, quoi. Il y a rien de mieux en fait.
Je vous pose la question, parce que c'est exactement les raisons pour lesquelles moi je fais ce métier.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire faire parler les gens de ce qu'ils sont, mais à travers de ce qu'ils font, de ce qu'ils aiment, de ce qui est de leur goût.
Ouais, exactement,
bien sûr.
C'est ça.
Nous faisons le même métier alors.
Mais complètement. Quand on est journaliste, en fait.
Faisons quelque chose ensemble.
Voilà. Avec grand plaisir.
Les libraires que nous pensions en baisse de vitesse avec la concurrence amazonienne sont plus forts que jamais. Le retour du livre papier est dû en partie aux différents confinements. Est-ce que c'est une période qui a boosté votre book club également à un moment où les clubs, les vrais, étaient fermés?
Ouais, c'est vrai que bah, pendant la période du premier confinement, on était passé à 3 épisodes par semaine. Donc on avait vraiment accéléré la production parce que oui, tout à fait, il y avait un désir, déjà d'écouter des podcasts et en plus nous parfait, on recommande des livres, donc il y avait aussi une envie d'agrandir sa liste de livres à acheter ou à emprunter ou à se prêter. Et c'est clair que ça a été un moment d'écoute très forte pour le Book Club. Ouais. Il y avait le son qu'on pouvait faire chez soi et les livres qu'on pouvait lire chez soi. Donc ça se rencontrait plutôt bien.
Initialement, donc, le Book Club, c'était de grandes lectrices qui vous accueillaient chez elles pour vous faire découvrir ce qu'il y avait sur leurs étagères et partager 3 livres déterminants pour elles. Hein. Et depuis janvier, la formule a donc changé puisque vous avez quitté l'ambiance feutrée des bibliothèques.
Je suis Agathe Le Taillandier et je vous invite pour cette conversation entre les murs de la maison de Honoré de Balzac à Paris.
On va entrer dans la bibliothèque de la maison, qui est un lieu très, très beau, très chaleureux. Des lecteurs viennent, du coup, j'imagine, travailler sur l'œuvre de Balzac.
Sans doute, du monde entier. Mais je ne connaissais pas non plus, je suis ravi de découvrir. Étant balzacien de cœur, j'admire ces lieux.
Mais là, du coup, c'est une de ces maisons dans Paris, on est dans le 16e arrondissement. Et elle est assez bien d'ailleurs restaurée, j'ai l'impression. Et puis, à cette bibliothèque, on va s'installer pour notre rencontre.
Alors, qu'est-ce que ça fait quand on se retrouve dans la maison de Balzac? Quand
elle
on aime comme ça
je
la littérature.
D'aller la visiter. Après, il y a quelque chose un petit peu patrimonial.
Ouais,
hein,
c'est
un peu chargé. Ouais. On est dans un peu aussi le cliché de la littérature.
Ouais.
Bon, voilà, c'est
comme la maison de Mingo à Cuba.
Voilà, exactement, sûrement. Oui, c'est ça, ou même Giverny. Enfin, et tous ces lieux un peu qui deviennent un peu mausolées aussi. Moi, je suis pas forcément fan. Mmh. Mais là, comme le premier invité était un historien et avait parlé de la littérature du 19e autour de la question de l'homme providentiel, comment ce mythe français s'est construit. Et c'est un imaginaire aussi très fort dans la littérature avec la figure de Napoléon, notamment chez Balzac, et voilà, dans la littérature du 19e. Donc, on trouvait ça intéressant de faire ça dans cet endroit-là. Mmh. Voilà. Faut aussi que le lieu raconte l'épisode, en fait. C'est important. Mais je suis pas forcément fan des vieilles maisons avec du parquet et des livres partout. Hein. Voilà. C'est indépendant de la littérature, mais.
Parlez de chez moi, là. Bon, cette période est très inspirante pour la créatrice de podcast que vous êtes, car vous avez fait des book clubs présidentiels, donc. Vous n'avez pas pensé à inviter notre première dame, qui est professeur de lettres aussi.
Non. Ah non, pas du tout.
Ça vous a pas du tout tenté ça.
L'esprit. Non, pas du tout.
Non, mais ça pourrait être un sujet, pourquoi pas.
Oui, pourquoi pas. C'est, ouais, pourquoi pas.
On restera donc sur le pourquoi pas.
Ouais. C'est ouvert.
Je sens que ça bouge pas.
C'est vrai qu'en fait, non, le point de départ, quand même, c'était d'aller. Et j'ai pas réussi à chaque épisode, mais c'était parce qu'on a commencé avec un historien, donc avec un intellectuel qui a une certaine distance quand même par rapport au terrain. Mmh. Moi, j'avais envie d'aller vraiment voir des gens qui font aussi la société, c'est-à-dire pas que qui la pense, mais qui la fabrique, donc qui milite politiquement. Mais par exemple, il y a un épisode moi que j'adore avec une gynécologue qui travaille à la maison. Mmh. Quand je m'emballe, vous avez vu, il faut que je fasse attention, je mange mes mots, donc je me calme. Mais j'aime vraiment beaucoup cet épisode parce que je suis allée à la Maison des Femmes de Saint-Denis, qui est un lieu donc très important de santé pour les femmes. Mmh. Et voilà, je trouvais ça trop intéressant d'aller voir une gynécologue et de voir comment la littérature, ça l'aide aussi à faire son travail et à interroger les violences faites aux femmes auxquelles elle confrontée au quotidien, en fait. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est aussi le terrain et c'est comment la littérature devient un soutien et un appel d'air et un moyen de mieux penser ce qu'on fait sur le terrain, quoi. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas forcément pensé à madame.
En fait, vous êtes tout à fait un remède au mal de l'époque, parce que dans cette période électorale où les petites phrases, les courses aux tweets pour les candidats, les chaînes info en toupie, enfin bref, est-ce que cette période extrêmement agitée, très pleine de mots, et en même temps très vide, c'est pas le moment idéal pour tout simplement se poser avec un livre?
Moi, je pense, j'aimerais
exemple,
que tout le monde le pense.
Par exemple, quel livre lisez-vous en ce moment?
En ce moment, je viens de finir le livre de Nicolas Mathieu que j'ai trouvé
merveille, hyper
bien. Ouais, voilà, que j'ai vraiment trouvé hyper bien, hyper drôle, hyper bien écrit.
Lisez tous le Nicolas Mathieu, le Connemara, absolument admirable.
Très, très, très bien. Voilà. Ouais, ça se lit extrêmement vite. C'est
vous
très
le lisez, et puis quand vous faites une pause, vous écoutez le Book Club.
Exactement, pour avoir plein d'autres idées de livres à lire.
D'Agathe Le Taillandier. Bon, Agathe, dans la suite de Pop-up Podcast, nous allons parler de podcast, mais encore de podcast. Et ce sera juste après La Nuit, je mens. C'est pas moi, c'est Alain Bachung.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né.
à la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, je trempais. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Presseur de loulou, dynamiteur d'accueil. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho.
La nuit, je mens, bien évidemment, Alain Bashung. Vous écoutez Papa Podcast, la seule émission de radio sur les podcasts que vous pouvez écouter à la radio et en podcast. Oh, oh, mais... Ah, mais oui, voilà que mes feuilles s'envolent. Mais ça veut dire que c'est Cosmo Flash qui arrive dans ce studio pour nous retrouver. Bonjour Cosmo.
Bonjour Antoine.
Asseyez-vous,
bonjour,
calmez-vous.
Bonjour,
bonjour
tout le monde.
Bonjour, je vous présente Agathe.
Bonjour,
bonjour
Agathe.
Bonjour Cosmo. Alors allez-y.
C'est alors voilà, cette semaine je vous parle effectivement des clubs, pas que littéraires, en podcast.
C'est très bien ça. Le book club, pas book club quoi.
Ouais, en quelque sorte, on pourrait dire ça. Alors je commence quand même avec un club littéraire, c'est probablement le plus prestigieux des États-Unis. Je vais bien sûr parler du book club d'Oprah Winfrey.
Hi there, it's me, Oprah. You may have heard about the book Cast by Isabel Wilkerson. It is the most important book I've ever selected for my book club because this is a moment, this is an awakening, and it's a time for a conversation about how we got to where we are, the America we are, and hope it can be. That's why I've started the Oprah's Book Club podcast, where Isabel and I dive deep into the critical topics that are important to our growth as individuals and the world we want to shape.
Voilà, de 96 à 2009, la célèbre présentatrice de talk show anime son club de lecture en sélectionnant un nouveau livre chaque mois. L'émission télévisée était tellement populaire qu'elle a donné naissance à l'effet Oprah. Mm-hmm. Au sommet de la popularité de cette émission, de nombreux livres confidentiels ont accédé au statut de best-seller après leur passage à la télévision, augmentant parfois les ventes de plusieurs millions d'exemplaires.
Oula, ça fait rêver ça, Agathe.
Ouais. Wow.
Agathe.
Bah, par exemple, les ouvrages de Toni Morrison, qui est quand même lauréate du prix Nobel, mmh. auraient bénéficié d'une plus grande augmentation des ventes grâce aux recommandations d'Oprah que grâce à l'obtention du prix lui-même. Mmh. C'est-à-dire l'influence énorme de ce club littéraire pour l'industrie de l'édition aux États-Unis.
Bah, c'est un peu comme les prescriptions de Pop-Pop-Pop, quoi.
Oui, okay. Oui, je pense que c'est le cas, effectivement.
Oui, c'est le cas. Exactement, exactement Thomas, c'est le cas.
Je n'en doute pas.
Oui,
j'en doute pas. Alors, Harry s'est arrêté en 2009, ce book club d'Oprah, et il revient en podcast et en vidéo en 2019 grâce à Apple pour parler en 7 épisodes de 30 minutes du livre Cast d'Isabelle Wilkerson. Alors, autre podcast, autre club, et cette fois-ci, j'espère ne pas en faire partie. Je vais bien évidemment parler du fameux club des 27, dont les membres sont ces icônes de la musique, toutes décédées à l'âge de 27 ans. 27 Club, donc, c'est une création exclusive de Jake Brennan pour le compte de iHeartRadio, l'un des plus gros studios de production de podcasts aux États-Unis. Jake Brennan, vous le connaissez peut-être déjà, c'est l'hôte et créateur du podcast Disgraceland, qui retrace les histoires criminelles les plus folles entourant les stars du rock. Pour 27 Club, il explore la vie de Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, et dans la dernière saison, c'est Amy Winehouse.
London, on fire. Police at the back door. Paparazzi around every corner. And a resounding voice teetering on the verge of fading back to black. The stage is set for the story of Amy Winehouse. With a voice that seemed to come from another time, and an attitude that defied time itself, Amy Winehouse fused the past with the present to make music for the future.
Ah, ça donne envie, hein. Bon, faut dire que c'est réalisé par Ghislain Fontanus, mais surtout ça nous apprend que vous prétendez ne pas avoir 27 ans. Merci,
ouais,
la radio. Ouais,
merci la radio. Merci la radio. Ouais. Parce que j'ai une très longue barre blanche derrière mon slip. Alors oui, et à défaut de faire partie du club, le podcast offre une histoire complète, extrêmement recherchée et magnifiquement mise en onde. Bref, un document sonore de référence sur la vie tragique de ces musiciens et musiciennes.
Cosmo Flash, petit défi. Est-ce que vous pouvez placer l'expression une fois n'est pas coutume et podcast en allemand dans une seule et même phrase?
Alors, attendez, laissez-moi écrire ça. Alors enfin, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un podcast en allemand.
Ah, ouais, bravo.
Magnifique. Alors là aussi, il s'agit d'un club plutôt sulfureux, c'est le légendaire Chaos Computer Club de Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 275, der Sendung, wo wir der Chaos Computer Club Berlin im weitesten Sinne sich einmal im Monat damit beschäftigen, aus einer, sagen wir, Nerd-Perspektive auf die digitale Welt zu gucken und Dinge zu erklären.
Alors là, vous écoutez Chaos Radio, donc l'émission radio en podcast du Chaos Computer Club, lancée en mai 96, ce qui en fait donc le podcast le plus vieux dont j'ai parlé dans cette chronique, probablement depuis le début. Alors, pour celles et ceux qui ne suivent pas, au fond, le Chaos Computer Club, c'est l'une des organisations numériques les plus influentes du monde. C'est le centre de la culture numérique allemande, de la culture des hackers, le hacktivisme, et c'est un point de rencontre incontournable de toutes les discussions sur les droits démocratiques et numériques en Europe. L'association est fondée en 81 et elle prône une plus grande transparence du gouvernement, la liberté d'information et défend le droit humain à la communication. Les principes de l'organisation rejoignent donc ceux de l'éthique des hackers. Le club se bat donc également pour un accès universel et gratuit aux ordinateurs aux infrastructures technologiques, ainsi que pour l'utilisation des logiciels libres. Dans cette chronique, j'ai souvent parlé de podcasts narratifs, d'histoires incroyables, d'enquêtes folles, mais le podcast est aussi un média particulièrement adapté pour partager le travail des associations et des clubs en tout genre. Là où la radio coupe parfois court aux conversations pour des raisons évidentes de timing, le podcast lui permet de nous donner l'entièreté des propos, donner un espace à la conversation, et pour les auditrices et les auditeurs, c'est l'assurance de se sentir totalement partie prenante des discussions culturelles et démocratiques de notre temps.
Merci Cosmo Flash, c'est beau comme l'anticorps, mais ça y est, il est déjà reparti. Ah, et mes feuilles qui s'envolent à nouveau, mais oui, il est tellement rapide ce Cosmo Flash. En tous les cas, quand ils s'envolent. Bon, qu'avez-vous pensé de tous ces clubs, Agathe Le Tallerdier?
J'ai appris plein de choses.
Vous aussi?
Je suis très impressionnée par le boucle club au début, là. Ça cartonne.
Après, oui,
il va falloir me donner la recette, parce que c'est...
Bah, écoutez, c'est peut-être dans...
Je parle américain, quoi.
La manière de poser les choses,
cool.
You know. Oh, this is fantastic, you know. It tells about our lives. You know. Vous peut-être parler
un peu.
Je
vais essayer, c'est le prochain.
Bon, ce sera à votre tour de nous conseiller un podcast dans un instant, juste après un morceau qui a tourné dans tous les clubs du monde. Says that's not my name, the Ting Tings.
They call me hell. They call me Stacy. They call me her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me quiet girl, but I'm a riot. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. I'm Mr. Catch if they throw me the ball. I'm the last trip standing up against the wall. Keep up falling these heels that keep me boring. Getting clamped up and sitting on the fence now. So alone all the time and I lock myself away. Listen to me, I'm now. Though I'm dressed up, out and all with everything considered, they forget my name. Hey, hey, hey. They call me hell. They call me Stacy. They call me her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me quiet girl, but I'm a liar. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name.
Not my name, the Ting Tings dans ce numéro de Pop-up Podcast. Agathe Le Taillandier, vous le savez, vous ne le savez peut-être pas, mais ici, nous avons une séquence qui s'appelle le podcast, c'est-à-dire le podcast que l'on conseille à un ami, en référence évidemment au coup de fil à un ami de Jean-Pierre Foucault au jungle. Et le podcast que vous voulez conseiller à un ami ou une amie, c'est Bookmakers. C'est un podcast Arte Radio de Richard Guettet. Bookmakers écoute les écrivains et écrivaines détailler leurs secrets d'écriture. Dans l'extrait qui suit, il recevait par exemple Hervé Le Tellier.
Pour commencer, une question simple en apparence, à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre, à votre univers littéraire ? Un seul mot.
Je dirais disparate. J'écris jamais le même livre. J'ai écrit du théâtre et j'en écris encore. J'écris de la poésie curieuse, j'écris des fragments, j'écris des romans.
Bookmakers avec notre petit chouchou Hervé Le Tellier. C'est un podcast de Richard Guettet. Alors pourquoi ce choix, Agathe ?
C'est vrai que ça, en l'entendant comme ça, ça peut paraître assez classique, parce qu'en fait, c'est une conversation entre un journaliste et un écrivain ou une écrivaine. Mais bon, déjà, c'est assez long parce qu'il fait une série de deux ou trois épisodes avec un auteur. Ce que j'aime bien, c'est qu'il rentre vraiment dans la fabrication, il rentre vraiment dans les coulisses, mais de manière extrêmement précise. Et on a vraiment l'impression, à la fin de l'écoute de ces épisodes, de savoir comment on devient écrivain. Enfin, il y a quelque chose où vraiment, les obstacles, la difficulté de rencontrer une maison d'édition, combien on gagne, c'est quoi un avaloir pour un premier roman, c'est quoi un avaloir après 10 ans de métier. J'aime bien, en fait, il rentre de manière très concrète et presque matérielle dans un métier qui peut encore paraître un peu un don de Dieu, une sorte d'inspiration tombée du ciel, et ça va complètement à l'encontre de ça. Donc je trouve ça hyper intéressant. J'apprends toujours plein de choses. C'est pas littéraire en l'air, quoi. C'est vraiment comment les livres se fabriquent, s'inventent, se créent à la sueur des personnes qui écrivent. Mais voilà, je sais pas, je trouve ça toujours, c'est toujours une rencontre en fait. Je fais toujours une rencontre. Et les trois derniers épisodes avec Maria Pourchet, qui a écrit Feu,
Maria
que
Pourchet.
Moi vraiment, bon, c'est.
Bah oui.
extraordinaire, ce livre. Une écriture folle. Elle est géniale. Les trois épisodes avec elle, c'est génial. Voilà. Sur qu'est-ce que c'est qu'être écrivain, sur ses doutes, sur comment elle a commencé avec un livre vendu à peine 3000 et elle finit avec Feu. Enfin, elle finit, son dernier livre, c'est Feu. Voilà, c'est vraiment un parcours, quoi. C'est trop bien.
Très bien. Bookmakers, c'est un podcast Arte Radio de Richard Guettet. Très bien. Alors, vous êtes totalement obsessionnel avec les livres. Hein. On est d'accord.
C'est vrai que j'ai pas réussi à faire un pas de côté. J'aurais pu, mais je me suis dit, je reste dans la thématique.
Très bien. On y est resté. Et j'en suis ravi. Merci Agathe Le Taillandier. Merci de nous avoir rendu visite pour parler de Book Club, qui est à retrouver tous les mardis sur toutes les plateformes et sur louismedia.com. Merci aussi à toute l'équipe de Pop 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 et à Adèle Caglar, qui était à la technique aujourd'hui. Lundi, on se retrouve pour un nouveau numéro de Pop Pop Pop. Mais avant lundi, rendez-vous partout sur les internets. 3615 Pop Pop Pop.